Chers amis auditeurs de Radio Maria, bonjour, c'est Thomas Oswald de l'Aide à l'Église en détresse qui vous parle. Alors, je m'adresse à vous en ce jour d'une façon un peu particulière parce que nous venons de boucler la Nuit des Témoins, qui est notre... que les auditeurs les plus fidèles sont déjà familiers, mais pour les autres, je vais quand même rappeler qu'est-ce que c'est en quelques mots. Donc, notre association, l'Aide à l'Église en détresse, vient en aide à des minorités chrétiennes partout dans le monde, là où elles ont besoin de notre aide. Et pour manifester le soutien dont nos donateurs leur font preuve, et pour manifester la solidarité de tous les chrétiens entre eux, nous faisons venir chaque année trois grands témoins à travers le monde, qui sont souvent originaires de pays africains, de pays d'Asie du Sud-Est, parfois d'Amérique latine, de pays au fait où l'Église a besoin du soutien de l'Église universelle, souvent parce qu'elle n'a pas les moyens d'assurer la formation des prêtres, elle n'a pas les moyens de scolariser les enfants pour le catéchisme, toutes ces petites activités pour lesquelles elle a besoin d'un support financier que nous lui apportons. Nous lui apportons ce support financier donc, puis aussi nous informons, ce que je suis en train de faire en ce moment avec vous, sur leur situation, et après nous appelons bien sûr à la prière tous ensemble. À l'occasion de la Nuit des Témoins, on fait venir donc trois témoins à travers le monde, et c'est beaucoup, évidemment, ça demande un certain budget, une certaine organisation, mais nous tenons beaucoup à cet événement parce que ça nous permet de prier tous ensemble au même endroit, dans un même lieu, afin de manifester la communion des chrétiens à cette occasion. Alors cette année, nous avions des témoins qui nous venaient l'un du Tchad, l'autre d'Haïti et le dernier de Myanmar, ou de Birmanie plutôt, je pense que c'est plutôt sous ce nom-là qu'on connaît ce pays, et qui venaient manifester la situation des chrétiens sur place. Alors pour commencer, au Tchad, nous avions Monseigneur Djitangar, qui est l'archevêque de N'Djamena, qui est la capitale du pays. Cet évêque a fait preuve d'un grand courage au micro. Il dénonçait avec beaucoup de franchise et de droiture la situation dans son pays. Le Tchad a été très longtemps dominé par la dictature de Idriss Déby, qui était un général, un président, qui d'ailleurs est mort au combat il y a 1 an et demi de ça. Et depuis sa mort, c'est son fils Mahamat Déby qui est supposé assurer la garde du pays dans le but d'un processus démocratique. Et en substance, il affirme qu'il va conserver le pays quelque temps et qu'il assure simplement la transition, mais qu'après lui, il y aura un régime démocratique normal. Or, comme c'est souvent le cas malheureusement, quand il y a une situation comme ça qui advient, le Mahamat Déby n'a jamais cédé le pouvoir. Il repousse sans cesse les élections. Et évidemment, il y a un grand mécontentement qui règne dans le pays. Et c'est une situation d'autant plus fragile, beaucoup plus dangereuse pour les chrétiens qui vivent sur place, qu'ils sont en minorité dans ce pays, qui a une grande majorité musulmane, oui, plutôt grande majorité musulmane, pardon. Et dans ce pays, il y a des tensions interethniques très puissantes, où la question de l'ethnie et de la religion sont étroitement mêlées, et où, à tout moment, on peut avoir une guerre civile qui éclate, avec d'un côté les musulmans nomades, de l'autre côté les chrétiens sédentaires. Tout ça majoritairement, hein, bien entendu, il y a certains musulmans qui sont sédentaires et inversement. Et donc cette grande fragilité du pays était en quelque sorte mise sous cloche pendant la période de la dictature d'Idriss Déby, une dictature très solide, parce qu'on savait que les groupes armés qui pouvaient commencer à s'activer étaient aussitôt contre-attaqués, aussitôt remis soit en prison, soit exécutés par le régime qui était très violent. Alors évidemment, ce n'était pas une solution excellente pour le Tchad, mais ça empêchait qu'il y ait une guerre civile. Alors, à présent que la situation est encore plus fragile qu'à l'époque d'Idriss Déby, notre Monseigneur Djitangar, qui était venu témoigner avec nous, nous faisait part de sa préoccupation, de sa grande crainte de voir le pays sombrer complètement et ressembler à des pays limitrophes que sont par exemple le Niger ou le Mali, encore à plus forte raison, où l'autorité de l'État n'est plus respectée et où dans de nombreuses régions, ce sont en fait des groupes armés qui commencent à faire la loi. Les chrétiens du Tchad sont en minorité, mais c'est une minorité tout de même très nombreuse, hein, et représente 10 millions de personnes à peu près. C'est toujours des recensements qui sont sujets à caution. Et c'est surtout une église excessivement dynamique, où il y a beaucoup de vocations, où les paroissiens sont très pratiquants. Donc c'est une église qui, au fait, a beaucoup de richesses, malgré la situation de sécurité, malgré le danger qu'il y a pour les chrétiens à vivre dans ce pays-là. C'est un pays où il y a énormément de richesses, et où l'Église a simplement besoin d'avoir le soutien de l'Église universelle. Donc la prière en premier lieu, c'est ce qu'on nous demande toujours, hein, à chaque fois qu'on appelle un chrétien au Tchad et qu'on lui demande de quoi il a besoin, il nous demande en tout premier lieu, priez pour nous. Ensuite, ils ont besoin que la communauté internationale connaisse leur situation. Et ensuite, en tout dernier, ils ont besoin évidemment d'aide financière. À l'aide à l'Église en détresse, l'aide que nous apportons, c'est pour la formation des prêtres, pour les couvents des religieuses, sachant que quand on aide un prêtre ou une religieuse au Tchad, au fait, on aide toute la société, parce que comme dans beaucoup de pays africains, l'Église catholique a un rôle spirituel évidemment, mais elle a aussi un rôle social de toute première importance. Il est très connu par exemple qu'à N'Djamena, les plus grandes écoles, les écoles les plus renommées sont souvent des écoles catholiques, et d'ailleurs des membres du gouvernement, des personnages haut placés, même s'ils sont musulmans, mettent souvent leurs enfants dans les écoles catholiques. Et c'est une très grande richesse, et c'est surtout une occasion pour les enfants qui sont élevés là de connaître les autres religions et de sortir des a priori, de sortir de la logique de conflit entre les religions qui peut exister dans les pays comme celui-ci. Voilà, j'en finis là avec le Tchad, qui est un pays qui est relativement plus stable peut-être que d'autres pays du Sahel alentour, parce que malheureusement la situation est telle que le Tchad fait presque figure de pays relativement sécurisé. Mais à tout moment, il peut exploser pour les raisons que je vous ai dit plus tôt. Donc j'appelle évidemment tous les auditeurs à la prière pour les chrétiens de cette région, pour tous les Tchadiens en général, mais tout particulièrement pour les Tchadiens qui vont se retrouver en situation minoritaire si jamais il y a une guerre civile qui éclate. Donc je continue avec notre second témoin qui est venu présenter son pays, qui est le Père Michael. Le Père s'appelle comme ça parce que c'est un prénom de baptême, mais sinon c'est un Birman de l'ethnie Bamar, l'ethnie majoritaire de Birmanie, qui nous faisait part de ses préoccupations aussi pour la Birmanie. Alors je pense que les auditeurs ont tout à fait à l'esprit qu'un coup d'État a éclaté en 2021, que la junte militaire qui tenait le pays jusqu'à présent, mais qui commençait à lâcher du lest, à présenter des signes d'ouverture, a complètement changé de bord, fait un virage à 180 degrés au début de l'année 2021 pour reprendre justement le pouvoir, pour fermer toutes les voies qui avaient été ouvertes vers la liberté d'expression, vers l'accès à un libre vote. Toutes ces possibilités-là ont été fermées en début d'année dernière. Parce que la junte sentait bien que le pouvoir était en train de lui échapper et qu'elle ne le supportait pas. Et donc là, malheureusement, on est revenu dans les années les plus noires de l'existence de la Birmanie, où le pays était complètement fermé, où il n'y avait plus aucune possibilité d'expression libre, et où les ethnies minoritaires, qui sont très nombreuses en Birmanie, vivent dans une situation oui, relégués en citoyens de seconde zone, je dirais. C'est-à-dire qu'ils sont officiellement, tous leurs droits sont respectés, mais dans les faits, ils n'ont pas accès à l'école, ils n'ont pas accès aux services publics normaux, et surtout, ils ont l'armée qui se livre à de grandes exactions chez eux, parce que elle affronte les milices ethniques qui prennent les armes contre l'armée. Donc on a la guerre civile qui a rééclaté en Birmanie. Malheureusement, elle s'était jamais tout à fait finie. Mais dans les années 2010, on pouvait croire que le pays était en voie de normalisation. Et on a en particulier les institutions comme l'Église catholique qui sont dans le collimateur du régime. Donc la situation n'est pas simple, c'est-à-dire que le régime va pas dire maintenant l'Église catholique est interdite, mais avec toutes sortes de petites vexations, avec le renvoi des prêtres missionnaires étrangers qui pouvaient résider sur place, avec la pression qui est mise sur les prêtres, L'Église sent bien qu'elle est visée, qu'en tant qu'institution indépendante, elle représente un danger aux yeux du régime birman. On a de toutes sortes d'exactions qui nous sont rapportées dans les zones ethniques, donc dans ces régions où l'ethnie Bamar n'est pas majoritaire et ces régions qui sont considérées comme hostiles par le régime birman. Lors de Noël 2021, il y a eu malheureusement 40 personnes qui ont été brûlées vives par les soldats de la junte, c'était des chrétiens. On a régulièrement des églises qui sont bombardées. Le père David Michael nous faisait part de sa désolation quand il a vu que l'église où sa grand-mère avait été baptisée, qui avait une église qui avait plus de 150 ans, ce qui est une très vieille église hein, pour la Birmanie, a été détruite par la junte. Donc, au-delà d'une guerre civile, qui est déjà une catastrophe évidemment, on a le sentiment que les symboles chrétiens sont de plus en plus visés et que ça devient dangereux malheureusement pour les chrétiens de demeurer en Birmanie. Le père David Michael ne réside plus en Birmanie depuis 3 ans. C'est pour ça d'ailleurs qu'il peut parler aussi librement, qu'il peut dénoncer les exactions de la junte. Il est bien évident que pour les prêtres ou les évêques qui demeurent sur place, il est tout à fait impossible de parler de la sorte. Hein. Je pense en particulier au cardinal Beau, que parfois on accuse d'être trop conciliant avec la junte. Il faut bien avoir à l'esprit qu'il est constamment surveillé et que toutes les paroles qu'il pourra prononcer, les actions qu'il pourrait mener contre la junte mèneraient à des répressions immédiates, contre lui probablement, mais aussi contre tous les chrétiens. Donc il faut être évidemment très prudent et pas oublier le contexte dans lequel sont les chrétiens de Birmanie et dans lequel est le clergé de Birmanie. Notre David Michael, lui, pour le coup, nous a dit la vérité parce qu'il le pouvait et il a clairement dénoncé sans aucune forme de conciliation les actions de la junte birmane. Il nous disait en conclusion que En conclusion, il nous rappelait une citation de Saint Maximilien Kolbe qui disait que le poison le plus mortel de notre temps est l'indifférence. Et je crois que c'est un message général hein, qu'on pourrait reprendre au compte de chacun de nos 3 témoins et qu'on pourrait reprendre au compte de notre association L'aide à l'Église en détresse. Le premier malheur de ces chrétiens qui vivent de telles situations de persécution, c'est le sentiment d'être oublié, d'être noyé dans des pays où on ne sait même pas qu'ils existent. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a des chrétiens en Birmanie, au Pakistan ou dans d'autres pays comme ça, où ils sont pourtant très nombreux, hein. Minoritaires bien sûr à l'échelle du pays, mais tout de même très nombreux. Et donc il faut briser ce mur de silence. C'est aussi pour ça que je vous parle aujourd'hui. C'est la première chose à faire. Et après, évidemment, je vous appelle à prier pour la situation de ces chrétiens qui vivent des heures tragiques et dont on espère qu'ils vont pouvoir connaître enfin la paix. Pour le cas de la Birmanie, malheureusement, on ne voit pas comment la junte birmane va pouvoir faire une transition vers un régime démocratique. Elle l'a tenté quelque part dans les années 2010, mais en voyant qu'elle perdait le pouvoir à chaque élection, et bien qu'elle ait truqué les règles de l'élection, qu'elle ait fait tout son possible pour garder le pouvoir, elle voyait bien qu'elle perdait le pouvoir à chaque élection, elle ne l'a pas supporté, elle a fait ce coup d'État, elle continue à maintenir une armée en place qui est très nombreuse et qui est relativement bien armée, beaucoup mieux en tout cas que ses opposants des groupes ethniques. Donc, à moins qu'elle finisse par perdre le combat militairement, on ne voit pas malheureusement comment ce pays pourrait pacifiquement se tourner vers une démocratie ou au moins un régime qui permette que les citoyens birmans vivent en sécurité, qu'il y ait une liberté d'expression, que les enfants birmans puissent retourner à l'école, parce que là en ce moment, même des actions aussi simples qu'envoyer ses enfants à l'école est devenu excessivement difficile et compliqué. C'est d'autant plus tragique que la Birmanie, à l'origine, est un pays très riche. C'est un pays qu'on appelait le bol de riz de l'Asie parce qu'il y a des terres qui sont excessivement riches et qu'on ne connaissait pas la pauvreté telle qu'elle qu'on la connaît maintenant avant l'indépendance. Voilà, alors j'en finis avec maintenant le témoignage de notre 3e témoin qui est la sœur Marjorie Boursicot. Alors, elle vient d'Haïti. Haïti, c'est le pays le plus pauvre d'Amérique. Amérique du Nord, Amérique latine confondue, et aussi un des plus pauvres pays au monde. Pas tellement en raison de sa situation naturelle, même s'il a des problèmes avec les catastrophes naturelles qu'on voit régulièrement, mais surtout pour des raisons politiques. Depuis l'indépendance d'Haïti, on a eu une succession de gouvernants qui étaient des kleptocrates et qui ont maintenu le pays dans le sous-développement et dans l'insécurité. Je pense que les auditeurs qui connaissent un peu l'histoire se souviennent des Duvalier, donc le père et le fils, qu'on appelait Papy Doc et Baby Doc. C'est des gens qui, dans la seconde moitié du XXe siècle, ont maintenu sciemment leur pays, Haïti, dans le sous-développement. Ça les arrangeait très bien, en fait, que la population demeure peu éduquée, que la pauvreté perdure parmi elles, parce que ça leur permettait de maintenir leur pouvoir. Et ils avaient notamment à leur solde les tristement célèbres Tonton Macoute, qui étaient officiellement des forces de sécurité, mais dans les faits étaient comment est-ce qu'on peut dire, des chauffeurs de pied, quoi, des mercenaires à la solde du pouvoir, qui se livraient aux pires exactions pour terroriser la population et maintenir le pouvoir des Duvaliers en place. Après eux, malheureusement, on n'a jamais eu de pouvoir solide et les gangs armés ont commencé à proliférer en Haïti. Dernièrement, l'année dernière, avec la mort du président Jovenel Moïse, ça a été une explosion de violence encore plus grave qu'auparavant et avec le sentiment de plus en plus présent que l'État n'existe plus, qu'il n'y a plus de force de sécurité réelle en Haïti, et que si on veut avoir la paix, au fait, il faut simplement payer le groupe, le gang qui tient la région à laquelle on appartient, et qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avoir la paix. Donc on comprend que dans ces conditions, l'éducation, les hôpitaux, tous les biens fondamentaux, simplement le fait de pouvoir aller au travail est rendu extrêmement compliqué. Et ça donne des situations quelquefois complètement absurdes. Je parlais avec un prêtre qui habitait juste en face d'un gang armé, justement, et qui allait les saluer le matin, où il y avait une espèce de vivre ensemble qui s'était installé avec ce gang. Mais malheureusement, il savait bien que tout en faisant ça, à tout moment, ça pouvait basculer, parce que ce gang pouvait être vaincu par le gang d'à côté. Ou pour une raison ou pour une autre, ils pouvaient décider de piller, de s'adonner au pillage de la région qu'il avait sous sa coupe. Donc c'est pas une situation viable, c'est pas une situation sûre dans l'avenir. Donc on comprend bien que les chrétiens qui vivent sous le joug de ces gangs-là sont dans une situation de très grande inquiétude. Malgré leur très grande ferveur, malgré la fidélité qu'ils ont à l'endroit de l'Église catholique, parce que le peuple haïtien est un peuple très religieux et les catholiques y sont très nombreux, ils sont excessivement inquiets pour l'avenir. Et ils nous disent souvent qu'à vue humaine, ils ne voient pas comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir devant la succession de kidnappings, parce que le kidnapping est devenu un moyen de se financer facile pour les gangs, devant les violences sans cesse grandissantes, avec des actions de plus en plus graves, comme récemment l'attaque de la cathédrale de Port-au-Prince. Là, pour le coup, c'était un symbole chrétien qui était attaqué sciemment. On a essayé d'y mettre le feu, ou on a cassé les murs de la cathédrale en y enfonçant des camions qui servaient de bélier. Il y a des actions comme ça qui sont faites régulièrement. Et malgré tout ça, donc on voit bien qu'à vue humaine, il n'y a pas de possibilité pour Haïti de s'en sortir. La seule espérance qu'ont les Haïtiens, ils nous disent souvent que c'est l'espérance avec un grand E, donc l'espérance des chrétiens, l'espérance que nous partageons tous. Mais à vue humaine, on ne voit pas comment est-ce que ce pays pourra retrouver un semblant de normalité. Donc c'est pour ça que nous sommes tout à fait attentifs à continuer à nos actions sur place, à continuer à soutenir les prêtres et les religieuses qui vivent sur place. Et c'est pour ça que, évidemment, j'appelle tous les auditeurs à prier en communion avec ces chrétiens persécutés, d'où qu'ils soient, donc là tout particulièrement de Birmanie, de Tchad et d'Haïti, pour les soutenir dans leur foi et pour que, quel que soit leur avenir, ils ne perdent pas l'espérance qui est souvent le dernier bien qui leur reste. En tout cas, je remercie tous les auditeurs de m'avoir écouté et d'avoir suivi le cri d'alarme de ces trois témoins. Et j'espère vous entendre bientôt, de vous écouter, enfin, que vous m'écouterez bientôt, pardon, sur les ondes de Radio Maria.